Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, salut Pierre-Marc, salut Benoît.
Salut Mathieu.
Cette semaine, salut! Yeah, ouais.
Mais un invité quand même de marque que j'avais pas pensé de prime abord, puis j'étais content d'y penser lors de notre plus récente soirée quiz en présentiel en décembre. Martin Guindon, journaliste de plus de 30, bientôt 30 ans d'expérience. Oui. Grosse discussion sur le journaliste, plein de sujets en fait, là, de social, politique,
technologique.
De métal aussi, parce que c'est un gros fan de métal.
On parle de musique.
Ouais,
pas la l'aluminium ou le fer. Ou...
Mais donc, il est fondateur du fanzine Arsenic. Là. On a parlé beaucoup là, de ce projet-là, qui est quand même beaucoup. On n'a peut-être pas parlé assez, mais on l'a effleuré quand même. Puis c'était bien intéressant, puis mais beaucoup. En tout cas, on est parti dans plein de directions. Ouais. C'est ce que j'aime des podcasts, en fait. Puis vous le direz si vous aimez ça, vous autres aussi, là, mais si vous n'aimez pas ça, fermez vos gueules. vous direz si vous appréciez ce genre de discussion-là, parce qu'on ne sait jamais, mais nous autres, on a du fun parce qu'on ne contrôle pas la discussion. Finalement, ça fait juste suivre son cours, ça suit le long fleuve tranquille.
Yes.
Et on se ramasse à mettre des opinions gratuites comme ça dans l'air. On participe à la pollution des opinions du monde médiatique. Donc, on est bien fiers de ça.
On se rapproche de Québec.
Exactement.
Radio X de l'Abitibi.
C'est une belle entrevue, vraiment.
Moi, je suis vraiment content.
François trouvait qu'on était cacophonique, là.
N'hésitez pas à donner vos commentaires, ça serait bien important. Puis c'est d'aller liker aussi, mettre une note là, sur nos toutes les chaînes de balado, là, dans le fond, balado, Apple Balado, Google Podcast, Spotify,
iHeart
Radio,
si Amazon Music.
Amazon Music.
Jeff Bezos.
On est-tu là en
train de... I watch you.
Puis dans le fond, ça va juste faire progresser. Puis n'hésitez pas pour envoyer des commentaires ou même des suggestions de personnes à recevoir. C'est tout le temps intéressant d'avoir ça. Nous, on a une bonne liste, mais tu sais, en même temps, comme j'ai déjà dit dans deux épisodes, c'est nous, on s'approprie la culture de la personne qu'on reçoit, mais appropriez-vous notre podcast puis la discussion.
C'est vrai que tu te répètes, Ben, je vais te le dire.
Ouais?
C'est bon. Ah, bon.
Non, c'est correct. Répéter un message, c'est le meilleur moyen pour le faire passer.
OK, fait que je suis correct.
C'est le principe de la propagande, finalement.
C'est ça. Je fais de la propagande.
Bravo!
Mange de la gomme.
On remercie nos partenaires. Diaté.
Ta gueule communication.
Et Benoît, rien à dire.
Rien à dire.
Parce qu'il n'y en a encore rien reçu, parce qu'on vend la bouche à Benoît, comme je dis tout le temps.
Je suis capable de m'habituer à ça.
Ah, je sais, mais c'est tellement magnifique. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que si vous voulez participer comme partenariat avec le podcast, envoyez-nous un message. On peut parler de votre entreprise, on peut parler de n'importe quoi. On va juste baser le prix sur la nature du message.
Et la sensibilité du message.
La sensibilité du message, effectivement. Donc, on lance ça dans l'air. S'il y a des gens que ça intéresse, envoyez-nous un message, puis ça peut s'arranger.
Toujours.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Appropriation culturelle.
Ouais, ça a été. Si on va m'expliquer ça, c'est les claquements de doigts là, Ben.
Tu veux rien dire, non, tu veux rien dire. J'essaie juste d'être drôle.
J'aime le moins ça là-dedans. Vraiment beaucoup.
Hey, on a un autre invité, les gars.
Mais qui est-ce?
C'est un journaliste.
Ah ouais?
OK.
De quand même, quoi, plus de 25 ans de métier? Martin Guindon?
C'est une question, oui.
Comment, parce que t'as gradué de 25 ans, ATM en 90, quoi?
Non, moi, je suis la graduation 91.
91,
okay. 91, mais j'ai commencé à l'écho à Moss en 92.
Ah, c'est bon,
un an de flottement.
Ça va faire 30 ans, là?
Bientôt.
Ben ouais. Puis en 30 ans, j'imagine que tu as vécu pas mal d'affaires. T'as pas toujours été à Amos, par exemple?
Non, pas toujours, par exemple. En effet, j'ai fait un début à Amos. Après ça, j'ai sauté la clôture, comme on dit souvent. Je suis allé du côté des communications pour l'association forestière d'Abitibi-Témiscamingue. La FAT pendant 3 ans. J'ai été le premier. Il n'y avait pas d'agent de communication avant ça. J'ai tapé à trail, oui. Puis c'était une époque vraiment très... où que vraiment l'association forestière s'est joué un rôle plus grand au niveau des communications, au niveau de l'information. Fait que c'est pour ça que le poste a été créé. Puis je suis revenu à Amos, à l'écho, en 99. Et en 2004, je suis parti pour Rouen, 3 années à la frontière.
Ah ouais?
Ouais. Puis après ça, je suis revenu. Puis depuis ce temps-là, je suis là.
Qu'est-ce qui t'a gardé à Amos?
Mais j'aime Amos.
Ouais?
Amos. Amos t'aime. C'est quoi le thème?
J'aime Amos vous aime.
Amos vous aime.
Vous aime, me semble, dans les 90.
C'est un amour réciproque.
Amos vous aime. J'avoue que c'est un peu...
C'est loin, hein?
Ouais,
c'est rendu d'amour et d'eau douce.
D'eau pure. D'Opus. C'est la MRC.
Ouais.
Amos, je sais pas.
Centre de l'action, c'est encore ça. Ça a été ça pendant un bout de temps.
Je pense qu'ils en ont plus. Qu'ils ont refait l'image. Je pense pas qu'ils aient refait un slogan.
Il faudrait en trouver un. Je le proposais à Thomas.
C'est des villes, justement, ça n'a pas de bon sens. Mettons, à Terrebonne, c'est
Terrebonne
de Terrebonne humeur.
Quand ton slogan, c'est un jeu de mots. Moi, j'aimerais mieux, mettons, tu sais, c'est Amos, mettons. Amos, pourquoi pas?
Mais on a un hymne.
Ça serait parfait.
On a un hymne d'Amos.
C'est ouais. Amos, oh, Kevin!
Ouais, c'est ça, c'est ça. La tonne thème d'Amos.
Mais il y avait une chanson aussi pour le centième, là.
École!
Ah, ouais. Oui.
La
ouais.
Centenaire, la centenaire, c'est ça?
Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais.
C'était fait par.
Excellent.
C'était des auteurs Véronique. Locaux. Là, c'est pas
il y avait un peu de monde locaux, mais ça venait de Tour de Fire, je pense.
Parce que
en tout cas, ça a été marquant.
Hockeyville, c'était Véronique
Francis.
Lemay.
Lemay.
Ouais.
Mais le centième, c'était d'autres personnes.
Ouais, c'est ça. Il y avait eu un concours, puis tout, là.
Ouais, ouais.
Mais ouais, mais il me semble qu'ils ont fait un peu de promo avec ça avant le centième, mais pendant l'année du centième, ils l'ont pas mis tant que ça, me semble.
Ouais, juste quelques occasions, en effet. À l'ouverture officielle, il avait chanté.
Ouais, c'est ça, ouais, il avait fait la toune à l'ouverture, c'est ça. Mais après ça, c'était Grégory Charles qui nous avait accompagnés.
Oh, ça c'était toute une soirée.
Ouais.
Vraiment.
Tu l'as-tu vécu le centième?
Oui, oui. Puis Grégory Charles, j'étais sur le bord de la scène. Là. J'ai pris plusieurs photos. Puis,
ouais.
Son bout qui fait Enter Sandman de Metallica, j'étais là.
Ah ouais,
il est assez versatile. C'est incroyable. On a beau le dire plusieurs fois, mais c'est, moi, en tout cas, j'étais vraiment fasciné par le range qu'il y avait de ouais, tout ce qu'il peut jouer.
Mais moi, ma question, j'étais pas là ce soir-là, mais ma question, est-ce qu'il a dit c'est le moment du défi?
Mm, ouais.
C'est ça qui est vraiment important.
C'est ce que j'espérais. Là.
Je me souviens pas.
Je sais que,
c'est le moment
je sais que Joe Picard, je pense que tout le long. Il a juste crié « Grégory, fais-moi faire de la science! » Je pense que c'est ça qu'il criait pendant le show, mais sinon...
Puis je me souviens que les gens étaient vraiment dans le spectacle. Puis là, il fallait qu'ils se tassent parce qu'il y avait le spectacle de Arikana, le fameux spectacle fait spécialement pour le centième.
Ouais.
Et il y avait un horaire vraiment très serré. Fait
oui.
Là, les gens voulaient comme Grégory reste, mais il fallait qu'il s'en aille. Ça a créé vraiment un anticlimax. Là.
Ça, ça a été le premier show de la soirée Arikana. Ça a eu un malaise.
C'est-tu le premier? Je me souviens pas.
Probablement.
Non, je pense que c'est le deuxième.
C'est le deuxième parce que c'est les colocs, je pense, le premier. Les colocs pour la vie.
Parce que moi, j'ai pas vu le premier. Fait que d'après moi, c'est plus le deuxième. Là.
Mm-hmm.
C'était, moi, c'était une collègue de Val-d'Or qui était venue couvrir le show. Là. Fait que je me souviens que c'est pas moi qui avais vu le premier.
Ouais, il y avait eu les Beatles aussi. Un show, c'est
c'était
Beatles.
C'était vraiment très bon, ça.
Ouais, ça avait été écœurant.
Ouais. Ouais.
J'avais été surpris.
C'était la Coupe d'Ours cette fin de semaine-là. La Coupe d'Ours que t'étais pas venu.
Parce que je travaillais.
Ouais, c'est ça.
Parce que il y avait des employés qui étaient suicidés, puis il y en a une qui était morte du cancer.
Bon.
T'avais des bonnes raisons, Matt.
Il a choqué à la Coupe d'Ours.
T'as-tu un papier? C'est un papier du médecin?
Ouais, c'est ça. Faudrait que tu me prennes.
Non, mais t'as un peu, je reviens là. Moi, à côté, c'était à la quête, en fait.
Mais on parle du centième gros événement à Amos. En 30 ans, t'en as vécu une couple d'événements, j'imagine, à Amos?
Ouais, ouais. Ce n'est certainement un des gros, celui-là. Mm-hmm. Là, dans son ampleur de toute l'année, ça a été une année absolument folle. Tu étais journaliste en même temps que moi. Tout devait se faire à Amos cette année-là, ça a l'air. Fait qu'il y avait le Salon du Livre, il y avait.
Secondaire en spectacle.
Championnat de curling, secondaire en spectacle provincial. En tout cas, il y avait de quoi quasiment toutes les fins de semaine.
Le mois de mai, là, j'en revenais pas, j'étais jamais chez nous.
Ouais, c'était vraiment très intense. Fait qu'en termes d'intensité, en termes d'envergure, c'est probablement la plus grosse chose que j'ai couvert en toutes ces années-là. Et un autre événement qui avait été quand même assez marquant, c'est Amos, quand il avait fermé la ville en janvier, je pense,
c'est
93.
C'est passé, hein?
Ouais, en janvier, il me semble que c'est 93.
Il avait fermé la ville.
C'était
94, en tout cas. Janvier 93 ou 94. Ouais, à l'époque, le ministère des Transports étudiait un projet où il rapatrierait toutes les directions territoriales et tout ça à Rouyn-Noranda. Et Amos s'était levé contre ça. À l'époque, il avait fermé la ville le 8 janvier. Il avait tout fermé. Il avait mis des voyages de sable. Là, ça avait été compliqué parce que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas vraiment fermer tant que ça. Là. Mais fait que les gens avaient sorti dans la rue. Puis écoute, la température, ça devait jouer entre moins 25 et moins 30. Moi, je me rappelle parce que c'est la première fois que j'ai réalisé qu'un stylo à l'encre, quand t'es dehors à moins 25, ça écrit pas.
J'ai déjà vécu ça, ouais.
Fait que là, je me suis dépêché, je suis retourné au bureau, je suis revenu avec des crayons plomb. Puis là, des crayons plomb, ça, c'est assez.
T'es correct.
C'est ouais, assez ça, moins 40 proof. Écoute, il y avait plein de médias ici. Michel Lacombe de Radio-Canada avait fait son émission. Il faisait une émission d'affaires publiques le midi, nationale, pas nationale, mais provinciale.
Okay.
Il avait fait ça en direct d'Amos. Il y avait eu plein de choses. En tout cas, ça avait été très couvert médiatiquement, mais. Ça avait un peu passé dans le vide en soirée parce que je pense que, de mémoire, cette journée-là, ils avaient annoncé le cancer de la peau de Robert Bourassa.
OK.
Il y a eu comme. Il me semble que c'est ça, là, c'est l'événement qui me revient à l'esprit. C'est peut-être autre chose, mais il me semble que c'était ça. Fait que ça avait comme pris le plancher du téléjournal tout d'un coup, puis le reste, on s'était ramassé plus loin, probablement dans le bulletin. Là, mais mm-hmm. Parce que c'était exceptionnel là, qu'il y ait une ville ferme comme ça, là, puis qu'il y avait des centaines, des milliers de personnes dans la rue, là, à moins 25. Là, ça faisait des images assez intéressantes aussi. Fait que ça a été un des gros événements.
Oui, parce que quand il y a eu, en 2015, tout le truc d'austérité puis les organismes de développement qui avaient été...
le mouvement régional.
On sentait un peu l'inspiration de ça pour se mobiliser.
Puis quand tu parlais des gens, c'est ce qui se rappelait. Ils disaient, moi, je me rappelle quand on est sorti en 93. Ouais, c'est vrai. Il y avait Daniel Lampron et compagnie.
Finalement, on s'était fait... tous les élus étaient là à ce moment-là, mais on s'était fait planter un couteau dans le dos parce qu'ils étaient dit, on va s'en occuper, puis finalement... Ils se sont fait miroiter une enveloppe, puis on va à la conférence des préfets, puis c'est terminé.
Ouais. Mais bon. Ouais, ça a été une période difficile pour les régions, ça, vraiment. Là,
on se relève, là,
d'austérité. Oui, on se relève d'une façon différente. On va rester à voir dans le temps comment ça va finir. Là, mais on a perdu un gros volet de concertation. Là. On dit souvent que ça sert à rien, là, mais c'est pas vrai. Quand tu parles tout le monde ensemble, souvent, il émerge des idées, il émerge des visions. Là, on a perdu un peu ça. Là. La conférence des préfets, ça demeure des élus qui se rencontrent, mais
c'est
cinq représentants. C'est ça, il n'y a pas toute la dimension de la société civile qui est impliquée, ces choses-là. Fait que ça manque. Moi, je trouve que ça manque, en tout cas, à bien des niveaux. Là.
Parce que il avait réussi à créer toute une espèce de mouvement de valorisation de la BTP, tu sais, VAT, entre autres, c'est de ça que ça avait résulté. Cultura, c'est un peu de là que ça sortait aussi. Tout le Conseil de la culture, Tourisme AT, qui travaillait ensemble avec la Conférence régionale des élus, c'était puissant.
Oui, il y avait vraiment une dynamique. Là, qui...
Puis là, heureusement, ça c'est déjà fait. Ça peut pas se perdre, là, mais c'est sûr qu'il y a moins de monde pour le piloter, peut-être. Là.
Exact. Ouais.
Sinon, gros événement, Jeux du Québec, t'étais là aussi?
Non, les Jeux du Québec, je les ai manqués parce qu'en 2005, j'étais à la frontière. Alors, j'ai manqué ça. Je suis venu faire un tour, là, mais comme simple mortel, comme citoyen.
Simple mortel.
Je suis venu à un mariage. Ma belle-sœur, elle se mariait. Ça,
pendant les Jeux du Québec?
Pendant les Jeux du Québec, oui.
C'était quand même, il y avait
pas évident d'avoir une chambre au château d'Amos.
Il y avait du monde à Amos.
C'est sûr.
Il n'y a pas de plus gros événement. Si on est en spectacle, ça amenait beaucoup de monde, mais les Jeux du Québec, là, c'était assez gros. Là.
Ah ouais, c'est des milliers d'athlètes avec tout
les
ce qui vient avec.
Les officiels, les parents, puis c'est l'été. Fait que c'est, en même temps, c'est un événement touristique, dans le fond.
Ça a l'air, par exemple, qu'il n'y a pas eu beaucoup de retombées pour la ville.
Ben, toutes les infras, tu sais, la piste d'athlétisme est encore là. Puis
ça a été à cause
de ça. C'est bien coté grâce à ça.
Les terrains de tennis. Les terrains de tennis aussi à Landrienne, je pense que ça vient de là.
Volleyball en arrière aussi, il avait fait ça pour ça aussi.
Oui.
Ils ont refait pas mal d'infrastructures, ils ont renouvelé, c'est ça.
La piscine, il avait fait le système de chronométrage qui fait que quand tu touches au mur, là, ça arrête le temps. Là, on voit ça aux Jeux olympiques. Il y a ça ici à la piscine, puis ça venait des Jeux du Québec, ça aussi.
Okay.
Quand même beaucoup de choses qui sont restées.
C'est pour ça que les Jeux du Québec, le monde s'y arrache, parce que ça permet vraiment de donner un gros coup sur les infrastructures sportives en même temps. Là.
Puis c'est une mobilisation qui est le fun, là, je veux dire.
Ben, ça a des répercussions sportives, mais aussi...
Humaine,
tu sais, le rassemblement puis de faire connaître la place. Hein. Pourvu que ça devienne pas un peu des éléphants blancs comme souvent dans les Olympiques, ça fait.
Ça laisse ça te chier, ça va?
L'eau est verte encore.
L'eau est verte?
Mm-hmm. Non, c'est pas ça te chie, c'était.
Mais ça, c'est au Brésil.
Non, en Chine, l'eau est verte?
Non, en Russie.
Russie,
ouais. Sochi. Sochi. Mais pendant les Olympiques, l'eau était verte.
Ouais, ouais, c'est
puis
ça.
Que les personnes, les nageurs, ils disaient, on arrivait là, à la piscine, puis ça sentait le pet à grandeur. ça sentait le pet, c'est bizarre. Puis, tu sais, ils ont des compétitions que je pense qu'ils n'ont même pas eu lieu.
Ils ont dû annuler quelques compétitions.
Oui, ouais. À la piscine, puis même dans le lac, là, pour le...
Puis il y avait le vent aussi qui cassait.
L'aviron, le kayak. Ouais. Du kayak ou... Bon, non, l'aviron. C'est... L'aviron peut-être, mais je sais qu'il y a eu
c'était pas des Olympiques d'hiver?
Oui.
OK.
Non, mais moi, je parle d'été. C'était été.
Mais Sochi,
c'est Beijing d'abord, non?
Ouais.
Ça devait être Beijing ou Brésil, là.
C'était dans la même. Mais peut-être au Brésil.
C'est Brésil, je pense que tu parles parce que même. Il y avait de la nage, puis là, les gens disaient, quand on faisait nos compétitions, il y avait des déchets tout le tour de nous.
mais ça, c'était dans la rivière.
Ouais, c'est ça.
Les compétitions, ça, l'aviron, puis tout ça. Ouais, c'est ça. La rivière était vraiment dégueulasse, mais les piscines qui avaient été créées. Ah oui, c'est ça. C'est au Brésil parce que 6 mois plus tard, il y avait eu une personne qui avait été prendre juste des photos de toute l'infrastructure, puis tout était décrépit, tu sais, le cycle olympique était déjà défait. On dirait que ça faisait 10 ans que c'était comme ça. Là.
Mais c'est super artificiel, les Jeux Olympiques, c'est ça qui arrive. Là. Il n'y a plus de. Je sais pas, c'est une game très médiatique.
Mais en même temps, il disait oh, on va utiliser le village olympique pour, après ça, faire des logements sociaux pour la population. Ouais. Ça n'a jamais été fait. Ouais, ça a été mis de côté. Puis...
Mais non, les favelas, c'est déjà assez bon, le monde du Brésil.
Tu t'en rends compte assez vite que tu n'as plus d'argent.
Ce qu'ils avaient peur avant les Olympiques, c'était vrai. La Zika, là, je pense. C'est ouais. ça le nom. Ouais, ouais. Le virus.
Le virus. Le virus.
Et finalement, c'est pas ça qui a été le pire. Juste...
La tournée de presse du pays qui a pris un
coup. Beau pays.
Ça a été l'odeur de pète de piscine.
C'était brésilien aussi qui brûle la vraie amazonienne. Puis dit,
ouais, lui, il s'en fout. Ouais, ouais.
Je me rappelle, au Jeux du Québec en 2005, il y avait le salon des athlètes, mais à l'aréna, sur la glace 2 du complexe sportif, il y avait rempli ça de sable. C'était comme un gros beach party qu'il y avait eu à l'époque. Anna DeJay qui a fait un show avec pas à la claire ensemble, mais le duo de Québec là, avec
The Natural.
Claude Bégin puis Acrophone. Acrophone qui a fait un show avec Anna DeJay. Sur la glace 2, tu sais, c'était...
Ben, je me souviens, tu sors dans l'aréna.
Oui, tu y avais été,
ouais. Ben,
bon, là, les bénévoles t'invitaient, là, ça, on pouvait participer. C'était toujours... C'était comme les bénévoles locaux avec les athlètes de partout. Comme... on n'est pas trop en gang tant que ça, mais bon, c'était bien le fun. C'était bien trippant. Tu pendant ce temps-là aussi, tu faisais du journaliste. Tu as fait longtemps de journaliste, mais au travers, tu avais un projet aussi de magazine.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Ça a commencé quand, ça, cette aventure-là?
C'est en 2005. Ouais, 2005... Okay. J'étais à Rouen à l'époque, à la frontière.
Au Québec.
Ouais.
Pour trop occuper sa revue Métal.
En 2005, j'avais du temps parce que j'avais un horaire plus normal à la frontière. C'était syndiqué. On avait des horaires plus moins de soirs et de fin de semaine à cette époque-là. Et c'est à cette époque-là que j'ai fondé le fanzine Arsenic, qui a connu un succès d'estime, disons, appelons ça comme ça.
Mais succès d'estime.
Oui, qui n'a pas eu nécessairement connu un succès populaire. Parce que le street team à partir de Rouen ou d'Amos, c'est pas nécessairement évident à faire marcher.
C'est quoi ça, street team?
Un street team, c'est parce que quand tu n'as pas de réseau de distribution à travers les librairies et ce que tu peux imaginer ou ce que tu peux trouver des magazines, ouais. Arsenic ne se trouvait pas sur les tablettes à côté du 7 jours, là, ni dans les magasins, ni dans l'épicerie. C'est nous-mêmes qui devions s'assurer de notre distribution. Et comme j'étais déjà éditeur, rédacteur, intervieweur, critiqueur, je faisais plein de choses, il fallait aussi que je fasse la mise en marché, que je vende la pub. En tout cas, il y avait tout un job à faire là. Et ce qu'on appelle le street team, c'est des gens que toi, tu trouves à différents endroits. Tu te dis, ben, toi, ça te dérange. Ils s'offrent, les gens, souvent. Ouais, moi, je vais m'occuper de le distribuer dans mon coin. Fait que j'avais quelqu'un à Rimouski qui le vendait dans son entourage.
Partout au Québec.
Ouais, partout au Québec.
C'est comme l'itinéraire, man.
Un peu le même genre de principe, si on veut. Ouais. Dans l'underground, les street teams, c'est tout repose de l'équipe que tu réussis à mettre en place un peu partout. Pendant une période, j'avais un street team absolument solide à travers le Québec. Fait que là, j'ai un numéro que j'ai coulé au complet. C'est le seul, là, le numéro.
C'est combien? Tu faisais un tirage de combien?
J'ai tiré du 1000 pendant un bout de temps, puis là, je restais pris bien des magazines. Tout imprimé. À un moment donné, j'ai baissé à 500. Là,
tout imprimé à Rouen?
C'était imprimé au début à Rouen. L'imprimerie, comment il s'appelait cette imprimerie-là?
Le Bon Fond.
C'était André Renault qui était un des propriétaires, là, une des imprimeries à Rouen. En tout cas, il m'avait fait un deal, André. Je travaillais à Frontière. Ouais, fait que je vais t'organiser de quoi. J'ai fait, je pense, les trois premières éditions avec André. Puis après ça, je suis allé à Ville-Marie avec Bernard. Lui, ça s'appelait ACAD 2000, son entreprise. Puis il me faisait vraiment un super bel job. Là. Puis c'était super. Bernard. J'ai envie de dire Bernard Ramel, je sais pas pourquoi. Flébus. Bernard Ramel, ça peut pas être ça. C'est pas Flébus, non. Flébus, non. Mais en tout cas, vraiment un service impeccable, incroyable. Moi, j'ai.
Tu vendais ça combien? Comment ça coûtait, Arsenic?
Ah, écoute, au début, là, on vendait ça 2$, OK? Les premières éditions étaient plutôt minces et en noir et blanc. Puis c'était pas imprimé, tu sais, qualité impression. C'était comme une espèce de... Oui, je pense que oui. Par exemple, faut pas que je me trompe. Je pense que c'est ce genre de photocopie, là, en tout cas. Mais c'était quand même bien fait de qualité. Puis je vendais ça 2$. À l'époque, quand moi j'ai commencé, il y avait un magazine qui s'appelait Sans Frais. Je sais pas si toi t'as connu ça.
Ça me dirait.
Sans Frais comme S-A-N-G, frais, faut le jeu de mots. Parce qu'il était gratuit.
OK,
okay. Métal, c'était Sans Frais. Ouais. Louise Girard qui venait ça d'une main de maître à Montréal. Puis ça roulait vraiment beaucoup Sans Frais. Et Sans Frais, de la façon qu'eux autres, c'était devenu, tu sais, vu que c'était à Montréal, beaucoup de spectacles internationaux qui passaient par Montréal. Ça se consacrait beaucoup à ce qui se passait comme spectacles internationaux qui venaient à Montréal. Moi, quand j'ai créé Arsenic, mon premier critère, c'est la scène du Québec que je veux mettre de l'avant et la scène abitibienne par extenso. in extenso, char du latin. pour justement, c'est ça, parce qu'on n'avait pas vraiment de visibilité ailleurs. Et moi, quand j'étais à la frontière, et même à l'écho, mais surtout à la frontière, il y avait une espèce d'effervescence à Rouen, à cette époque-là, dans la foulée des Ian Campbell et compagnie. Mm-hmm. Fait que là, je commençais à faire des entrevues avec des groupes ou avec des gars qui faisaient des choses. Yannick Saint-Amand, là, j'ai fait une entrevue avec lui, là, sur le fait qu'il était avec The Spice Icon, qui était un groupe qui commençait à peine à être connu. Là, mm-hmm. là, ouais, aujourd'hui, ouais. C'est devenu
c'est mythique, là,
un groupe international et tout, là, mais à l'époque, c'était comme les débuts. Fait que j'ai fait des entrevues avec Yannick, avec Sébastien Audette. À l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Descend into Nothingness de Rouen, qui avait un certain following.
Puis ils ont eu leur propre label de record aussi.
Sébastien qui a fait son label, puis qui a aussi sa compagnie de production et tous les gros spectacles qu'il y a eu à Rouen dans les années 2000, en 2005. Ouais. Moi, mon timing était parfait. Là.
Bonnes années du petit théâtre.
C'était incroyable. C'était 400 personnes à tous les shows.
Des groupes de partout dans le monde qui venaient jouer.
Tu sais, des groupes que j'aurais jamais pensé voir à Rouen. Là. Moi, j'ai vu Creator à Rouen. Creator, c'est un groupe allemand de la vague trash des années 80 qui est encore gros aujourd'hui. Ils ont joué à Rouen. Napalm Death, qui est un des plus grands groupes de grindcore au monde, ils viennent d'Angleterre. Ils ont joué à Rouen. Sonatartica. Qui joue dans des arénas, qui remplit des arénas en Europe, à tous les spectacles, au petit théâtre.
Ah, c'est ça, ça n'avait pas calice de sens, toutes les bons bands qui passaient. Tu faisais, voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'ils ont en ma course, go!
C'est underground, fait que c'est. Sont encore accessibles pour les petites salles, même.
Écoute, on était devenu un peu comme un incontournable là, quand ils venaient en tournée canadienne. Il fallait qu'ils passent par Rouen, tu sais. Ouais, ouais. Montréal, Québec, Montréal, Rouen, Toronto.
Les gens venaient ça parce que c'était intense. Le public était vraiment dedans. Puis il y avait comme une belle réponse. C'était pas des trous. On n'était pas 5000, là. Peut-être quoi, 900 dans cette salle-là, peut-être?
Non.
400.
450 quand que les pompiers étaient pas dans les endroits. Mais c'est plus autour de 400-450, ce qui est énorme. Là. Puis dans le petit théâtre, c'est jam-pack, 450. Ouais, ouais. Fait que ça donne toujours une impression incroyable. Puis les gens étaient vraiment très intenses, comme tu dis. Là. Les fameux circle pit qu'on faisait, là, étaient légendaires. Et après ça, il y a eu le Wall of Death qui est devenu vraiment une tradition aussi, qui était filmé puis partagé sur MySpace à l'époque.
Ah, j'ai collé un Wall of Death sur... Martyr.
Ah oui, bon.
Parce qu'il fait comme, hey, on peut pas faire un Wall of Death, on joue tout. Je fais, va te le coller, moi. Mais viens-t'en. Ah ouais? Fait que tu sais, t'as la salle qui est séparée en deux, puis attendre qu'Albé tu parte, tu baisses les bras, puis ça se fonce dedans.
Ouais, ouais, mais il y avait fait, je ferais pas c'était quel show, mais au FMA, il y en avait eu un moment donné, j'étais dans la soirée métal, puis je fais,
C'était devenu un incontournable, c'était quasiment rendu trop, là, tu sais, à un moment donné. C'était plus spécial, mais au début, c'était comme vraiment quelque chose, là.
Après ça, il y a des belles variantes, comme j'ai vu Real Big Fish caller un skank, Skank of Death. C'est deux groupes qui skankent pour s'en aller, puis juste, ça danse, c'est funné, c'est gentil.
T'étais-tu un adepte des Wall of Death puis des Mosh Pit, hein?
Comme participant?
Ouais, ouais.
Non.
Non, t'as jamais eu là-dedans?
Non, moi, le métal, pour moi, c'est un mélange de cérébral et de physique, là, évidemment, parce qu'il y a quand même une partie physique importante dans cette musique-là, mais il reste que j'ai jamais été le gars qui va en avant puis qui fait le trash en rond. Puis j'étais toujours en avant dans les shows à Rouen, parce que je prenais des photos pour mon magazine, fait que forcément, j'étais dans le trafic. Là. J'avais des gars qui me spottaient et qui me protégeaient, des Eric Séguin, je sais pas si vous connaissez, c'est un gars d'Amos, c'est assez charpenté.
C'est-tu le viking, le grand aux cheveux blonds, là, qui était tout le temps là?
Non, Guéguin, pas de cheveux, souvent.
Ah oui, il y allait tout le temps Rockfest déguisé en personnage, puis grosse affaire.
Ouais. Exactement. Okay. Oui. Fait que quand j'avais Eric à côté de moi, je me sentais en sécurité. Puis c'est ça. Mais la seule fois où j'ai vraiment été pris dans une mouvance très puissante et très forte, c'est quand je suis allé voir Slayer à Montréal. La seule fois que je les ai vus avec Dominique Goulet, un petit gars de l'Andrienne.
Ouais.
Puis c'est la seule fois où vraiment, là, nous autres, on était vraiment loin en arrière. On a juste de coller notre bière. C'était Hatebreed qui faisait la première partie. On était après la première partie, on était entre les deux. Puis quand que les lumières ont fermé, puis que la chanson a commencé, la première chanson, là, toute la salle au complet s'est mise à bouger. Moi, j'ai renversé ma bière. Là. C'est comme, je m'attendais pas à être dans le trafic à ce point-là, aussi loin que j'étais. Et plus le spectacle avançait, ben, en fait, rapidement, moi, je me suis faufilé pour me rendre le plus proche possible en avant de la scène. Puis j'étais juste en avant de Kerry King, un guitariste de Slayer. Puis j'étais juste là. Je pense qu'il y avait trois personnes entre moi et Kerry King quand ils ont commencé Angel of Death. Là, c'était le summum pour moi. J'étais comme.
Oh, yes.
Mais là, c'était physique parce que là, j'étais vraiment dans le trafic. Là, je me faisais pousser ou je me faisais avancer.
Ouais, pendant Angel of Death,
mais moi-même, là, tu sais, je mets mes lunettes là puis je saute dans le tas. Là, ça n'a jamais été.
Ouais, c'est ça. C'est l'affaire de gars qui porte des lunettes. Hein, ouais. Moi aussi, je suis pas un gars de métal, là, mais tu sais, au Cowboy Fringant, ça brasse tout un peu. Mais avec les lunettes, je suis comme. Ouais, pas trop, faut pas que j'y aille trop.
Ouais, non, ça n'a jamais été ma partie physique, je la vis plus à travers les vibrations de la musique, à travers Puis le fait d'être en gang aussi, je veux dire, à un moment donné, il y a toute une dimension où il y a quand même des contacts. Là, je veux pas, on est assez serré dans une salle. Même. Mais non, sinon, moi, c'est plus au niveau cérébral que ça se passe. Là.
C'est fascinant, le métal. Justement, je vois ceux qui brassent en avant, je comprends leur fun. Mais là, des fois, je vois la soirée métal au FM, justement, juste en arrière, puis c'est juste comme du gros bruit très, très fort. Puis je fais comme, ben là, il est où mon plaisir? Je le sais pas. Je comprends que c'est très technique comme musique, dans le fond.
Même ça dépend.
C'est pas nécessairement technique. Ça dépend de ce que toi, tu vas chercher là-dedans. Il y a des très bons musiciens, mais des affaires qui sont beaucoup plus garochés volontairement ou parce que c'est les limites qu'ils ont. Mais c'est l'énergie, c'est beaucoup l'énergie, c'est beaucoup l'intensité. C'est beaucoup. Faut que ça vienne te chercher d'une quelconque façon. Les gens écoutent telle musique parce qu'il y a des paroles. Les gens écoutent telle musique parce que c'est la mélodie. Ouais. Dans le métal, t'as un peu tout ça. Il y a des gens qui n'écoutent parce que c'est des paroles, même si des fois tu dis on comprend rien, là, mais il y a quand même des textes là, qui sont jappés en avant. Là. Ouais. Et des thématiques, tout ça. Fait que.
Parce que dans le plus métal, autant que j'ai aimé beaucoup, c'est Anonymous.
Ouais, Anonymous.
Puis l'Académie du Massacre, surtout, là, qui a créé le lien avec mon oncle Serge. On dirait que ça, le parolier, mon oncle Serge, m'a permis chercher, d'intégrer un peu la patente. Là.
Ouais, puis les premiers albums d'Anonymous étaient en français, avec quelques chansons en espagnol, là, mais c'était surtout en français. Puis à un moment donné, c'est devenu plus anglophone. Puis là, le dernier album, c'est le fun, ils reprennent leurs meilleures chansons, mais ils les font en espagnol.
Mais Marco, il est revenu, c'est ça, hein?
C'est pas plus en italien, les autres,
qu'en espagnol? Ben, non, ça doit être de l'espagnol, parce que les frères Souto, c'est des espagnols.
Ah oui, c'est vrai, les Souto, j'ai pas pensé.
Mais des espagnols. Ils sont québécois 100%, là, mais d'origine espagnole. Puis, fait que eux autres, non, d'après moi, c'est plus des textes en espagnol. Là, mais il y a sûrement eu des choses en italien, parce que Marco peut chanter en italien. Mm-hmm. On le sait, à cette heure.
Il a fait un show juste là-dessus, avec un petit chapeau.
Quand il était venu à Amos, ils sont venus une couple de fois à Amos. Là, Marco Cagliari, là, c'est vraiment un gars super sympathique. Là. Dans la gang d'Anonymous, je m'entendais bien avec tout le monde, mais lui, vraiment, là, c'était le gars le plus trippant. Monsieur d'un loge au Théâtre des Oscars, là, et lui, c'était le bout d'entrée un peu.
Toi, il venait dans le temps de la tournée 2-3 punk, je pense. C'est-tu dans ce temps-là?
Il était venu. Ah, écoute, ils sont venus à Amos et là, et Saint-Félix une couple de fois là, parce qu'il avait fait un show aussi
à l'église?
Non, à l'aréna de Saint-Félix.
Okay,
il y avait une couple de gros noms, là, je vais essayer de me rappeler, là, mais ça a fait longtemps.
À l'aréna de Saint-Félix, ça, ouais.
Ils sont allés aussi à la Sarre. Sont allés aussi à la Sarre.
Ah, écoute, ils sont venus à Rouen.
Partout, là, ouais, c'est ça.
Ils sont venus à Rouen plusieurs fois aussi, là, mais à Amos, ils sont venus au Théâtre des Escars.
Il a fait une captation de l'Académie du Massacre au petit théâtre, puis c'était sur bandaport.fm. On avait parlé avec Félix B. Défossé,
okay, ouais.
Qui était d'ailleurs à ce moment-là le coordonnateur de tout ça, là, celui qui avait comme géré les captations. Mais ça, je me rappelle, je l'ai écouté et réécouté ce show-là sur bandaport. C'était vraiment un bon show.
Ah, il avait été au château, eux autres, quand ils étaient venus avec l'Académie du Massacre à Amos.
Au château,
Au sous-sol du château. Monsieur. Non, j'avais pas pu aller voir le show parce que j'ai pas pu me pogner de billets, mais je passais en avant, puis il y avait plein de monde qui traînait dehors aussi, qui avait de la bière partout. Là, finalement, il y avait de la bière dehors du monde, sa grosse brosse, puis ça sentait le bruit d'à côté.
C'était
au sous-sol, là. C'était dans la grande salle en bas, là.
Monsieur Nolet, du pogné de quoi ce soir-là, lui?
Tabarnak, t'imagines? Mon oncle Serge,
il n'y a pas eu bien des shows, là, mais il y en a eu quelques-uns. C'était surtout dans le sous-sol de l'église de l'Andrienne, parce que Dominique était de l'Andrienne, fait que c'était plus facile pour lui de booker ça. Là, j'ai vu plein de choses. J'ai vu les vulgaires machins une couple de fois. WD-40 sont venus. Capitaine Révolte sont venus, mais je sais pas s'ils sont venus à l'Andrienne. Je sais qu'ils sont venus à Amos.
Ouais, pour la tournée de 2-3 punk aussi, entre
probablement. Là,
c'était quoi les bands? C'était Atomic.
Arsenic Atomic?
Non. C'était un band punk emo un peu. 44?
Plus
44? Plus 44. Some 44?
Non. Excuse-moi, ça va m'en revenir. Some
44. Psychotic 4.
Psychotic 4.
Ah, avec Goulunatics. Psychotic 4.
Avec Goulunatics, man, ça c'est fort.
Ouais, c'est métal, c'est punk, ça?
Ça joue pas mal sur les lignes entre les deux. Là. Okay. C'est beaucoup d'influence punk, mais...
Parce qu'il fallait ça. À moi, pour que ça pogne un peu, il fallait que ce soit plus punk que métal, ou un mélange des deux.
Vraiment, écoute, il y a eu des bons shows, là, Covadis, il y avait du monde, puis ça trippait, là. Il y a des choses qui réussissaient à passer mieux là, à ce niveau-là. Mais c'était pas mal plus punk que métal. Mais du métal, on en vendait. Moi, j'ai travaillé en chevêtrerie pendant 3 ans, je pense.
T'as travaillé en chevêtrerie?
Ouais, okay. Puis on en vendait du métal.
Dans le temps que c'était au Périgny?
Dans le temps que c'était au Périgny. Puis après ça, quand ça a déménagé dans anciennement Papeterie Larouche, devenu aujourd'hui la petite bouteille.
Papeterie Larouche, oh, ok, et c'est bon, ok. Papeterie Larouche, c'est-tu Rodrigue?
Papeterie Larouche, non, c'était non, l'autre Larouche, c'était l'autre gang de Larouche, okay. Le même que le père à Patrick Larouche, celui qui a la Ruche Bureautique. j'ai un blanc, là, mais en tout cas, son père qui avait ça. Moi, quand j'ai commencé à l'écho, notre bureau était, ça va rappeler des souvenirs à des gens, ça, mais en tout cas, à côté de la caisse, en face du Tim Horton, il y avait une petite bâtisse, là, on avait un bureau là, nous autres, l'écho. On était des clients réguliers du Tim Horton pour aller chercher du café. On n'avait pas de fax à cette époque-là, ça coûtait trop cher, je crée bien pour l'époque. Puis, fait que ce qu'on faisait, on recevait nos fax, on donnait le numéro de téléphone de la papeterie Larouche, on recevait nos fax chez Larouche, on allait les chercher, on les ramenait. C'était toute une époque. Les photocopies aussi, c'était les autres.
Ouais, toi, t'as connu l'informatisation de la presse, dans le fond? T'as-tu connu l'époque où c'était vous colliez vos articles puis vous envoyez ça à la presse? Là?
Ben non, moi, j'ai jamais eu à faire ça, Dieu merci, non, là, ça. Mais j'étais pas au montage non plus. Mais...
T'as toujours un ordinateur, toi?
J'ai toujours un ordinateur, mais quand j'ai commencé à l'écho, là, on appelait ça le bon fond spécial. C'était des ordinateurs, ça devait être des 486, ou je sais pas, je me rappelle pas comment ils appelaient ça, ces ordinateurs-là. Il n'y avait même pas de disque dur là-dedans. Là.
Ah ouais?
On mettait nos articles sur des floppies, là, les grandes, là, pas les petites disquettes, oh, là, les grandes disquettes molles. Là, là. Puis on mettait nos textes là-dessus. Nos photos étaient prises par un photographe avec la photo noir et blanc. Il fallait qu'il développe ses photos. Il y a eu Serge Saint-Laurent qui était notre photographe quand j'ai commencé, parce qu'il y a eu Marc Dallaire. Puis ces photos-là étaient développées. Là, les autres, ils venaient nous porter ça. On mettait ça dans une enveloppe. On envoyait ça par autobus à Val-d'Or. Parce que le journal était monté et imprimé à Val-d'Or à cette époque-là. Il y avait l'imprimerie Le Bon Fond qui imprimait le journal.
Il faut que justement, quand j'étais au journal, quand j'étais à l'écho, tu sais, je pense justement à l'ancienne fonctionnement dans le texte moins informatique puis tout, puis j'étais essoufflé juste de penser comment que c'était fait. Non, c'était la norme, c'était normal. Oui, c'était pas normal, plus essoufflant ça. Qu'aujourd'hui, dans le fond. Là. Aujourd'hui, même, c'est peut-être plus essoufflant parce que là, t'as le multitask, multiplateforme, puis mets ton texte en ligne.
Ah, ça a énormément évolué. Non, c'est... Twitter, si je compare Facebook, ce que je faisais les premières années que j'étais à l'écho, là, puis à l'époque, il y avait juste l'écho, il n'y avait même pas de citoyens. Là, on faisait un journal par semaine. On en faisait plus que ça parce qu'il y avait des éditions locales, mais il restait que moi, j'écrivais pour l'écho d'Amos. Fait que...
OK.
Il y avait un écho à Amos, un écho à La Sarre, un écho à Val-d'Or, un écho Barreau de Sainte-Thérèse-Quévillon.
Toutes des pages différentes?
Il y a déjà un écho de Malartic. Il y avait un peu comme les pages de changement que tu as connues avec le citoyen. Ouais, là, ouais. Donc, il y avait un corpus qui était partout dans la région. Puis, il y avait d'autres pages qui, elles, étaient juste à Amos. Puis, les mêmes pages à Val-d'Or, c'était des textes de Val-d'Or qu'il y avait dedans. C'était des pages de changement. Et à un moment donné, ça s'est toujours comprimé, ça. Là. À un moment donné, c'est devenu l'écho d'Amos-Lassar. Fait que là, ouais. Yvon et moi, Yvon Odette, que tu as sûrement connu, Yvon et moi, ben, on se partageait l'espace. OK, ben moi, j'ai quatre textes. Moi, j'en ai cinq. OK, ben, prends telle page. Puis, nous, on faisait des maquettes, on dessinait ça à main. On disait ce qu'on voulait, notre texte avec le titre en haut, la photo là. Puis eux, ils reproduisaient ça à Val-d'Or. C'est une époque. Pourtant, pas si lointaine que ça.
Non, ouais, c'est ça allait vite.
C'est moins de 30 ans.
Ça allait vite.
Quand j'ai fait mon cours en ATM, à Jonquière, en art et technologie des médias, on fait la plug. Je pense que c'est rendu à cette l'École nationale des communes. Ça vient de changer de nom.
Ouais, ah oui,
c'est
récemment.
L'école supérieure. L'école... En tout cas, tu checkeras, là, ça vient de. Ça fait pas longtemps que c'est annoncé. Quand j'ai fait mon cours là, on traduisait des Mac, puis on faisait de la mise en page, nous autres même sur Quark Express. Déjà, tu vois, ça commençait.
Je pense qu'on avait Quark, nous autres aussi.
Ouais.
Mais ça devait pas être la même version.
On avait pas la même version. Mais nous, on était comme les premiers à. Utiliser ça, puis à cette heure, c'est même plus la norme.
Tu nous avais donné des iMac, c'était plutôt des beaux ordinateurs, mais c'était des citrons, là, ça marchait pas.
Ouais. Puis tu retrouvais ça quand t'es arrivé à l'écho, c'était des iMac qui étaient un peu
Ouais, moi on avait un ordinateur pour ceux qui faisaient le montage, mais sinon c'était des petits laptops. Là.
Ok, vous étiez déjà rendu au laptop. Ouais. On a eu des iMac pendant un certain temps à l'écho aussi. Là.
Ok, oui, ça me dit quelque chose. Ouais, quand mon stage, il y avait quelques-uns de ces ordis-là qui traînaient.
C'était tout mignon, là. C'était coloré, là. C'était comme une espèce de moniteur.
Ouais,
c'était tout dans une pièce. Là,
Le bubble, c'est ça.
Pas réparable.
Non, pas réparable. Ben,
Mac, à l'époque, c'était toutes des affaires, tout ensemble. Non, mais tu pouvais rien changer.
Tu pouvais réparer ça, mais la façon que c'était monté, c'était vraiment focal. Il fallait que tu démontes tout de complète pour changer un petit peu.
C'est parce qu'ils ont vendu en esti ces affaires-là. Là, ça, dans les médias, entre autres. Là.
Ça a été le début des ordinateurs personnels. Là. Ben, début, pas tant début, là, mais mettons, c'était beaucoup plus accessible.
C'était la même époque que Pentium, dans le fond. Là, les Pentium 4, Pentium...
Je pense que oui.
Le Pentium, c'est le processeur, dans le fond. Là,
ouais, OK.
Le Mac, c'est parce que c'est des boîtes fermées. Dans le fond, c'est toutes des choses exclusives à Mac tout le temps. Fait que, ouais. Tandis que les autres ordinateurs, tu pouvais les monter toi-même. Ouais, quelqu'un qui était moindrement doué, il pouvait se ramasser différentes pièces puis se faire
les ordinateurs. Ça a été le début, par exemple, du genre du marketing puis, mettons, la mode. T'sais, avant, tu avais des boîtes là, beige, là, ça c'était un ordinateur, mais là, tu peux avoir un Mac de couleur, puis tu pouvais comme un peu plus custom, c'était un peu plus joli, mettons. Là.
Parce que quand moi, dans les années 80, là, les ordinateurs, c'était quand même T'sais, le VIC 20 puis le Commodore 64, ces trucs-là, tu sais, puis c'était très limité. Mais quand IBM a sorti son premier ordinateur personnel, vraiment, parce que tu travaillais chez eux avec un ordinateur, là, il restait toute la complexité, tout le langage qui était utilisé à l'époque. Là,
MS-DOS.
MS-DOS. Ça. Fait que, tu sais, ça, c'était pas très accessible. Ce que Macintosh a amené à l'époque, c'est Apple, ce qui est devenu Apple, c'était vraiment la façon que. User-friendly, là, tu sais, plug and play, là, qui appelait. Ouais, ouais. Je me souviens des pubs là, avec. C'était comment est-ce qu'il s'appelle
Steve Jobs.
Non. Ah, tu parles d'un artiste.
Ouais, je parle de celui qui faisait Brendel Mouche là, dans The Fly, là, puis qui a joué dans Jurassic Park.
Jeff Goldblum.
Il a appris Jeff Goldblum pour faire la campagne. T'sais, Jeff Goldblum, il arrivait avec son iMac, il me disait là, puis il plugait dans le show, puis je suis prêt. Prêt à faire ce que je veux avec la machine, tu sais, c'était révolutionnaire. Parce que Star s'est rendu la norme, mais à l'époque, c'est ça.
Puis maintenant, Windows, il ouvre avec ma face.
Puis Windows, c'est carrément une copie de ça, tu sais, à un moment donné, qui ont amélioré, qui ont fait à leur façon eux autres, là, mais il reste que Windows. C'est,
mais je pensais que Windows est arrivé avant Mac, moi, par exemple.
Non, mais pas MS-DOS, mais c'était quoi le. Il y avait un système d'exploitation avant ça qui existait, mais c'est parce que Mac est basé sur une plateforme Unix.
Ouais.
Puis Windows, c'est complètement une autre architecture. Là. Fait que tu peux pas jamais comparer les deux.
Non, je sais, mais je pensais que le premier qui avait amené comme l'accessibilité à un ordinateur de maison, c'est, je pensais que ça avait été Windows. Là,
ben non, mais c'est Mac. Ben Mac pour la partie comme plus facilitante. Là.
Ouais, c'est ça.
User-friendly, puis l'utilisation. Tout le monde, dans le fond, Steve Jobs, dans sa vision, c'était que tout le monde ait un ordinateur personnel dans leur maison. Mm-hmm. C'était un peu ça. Là. Puis après ça, ben, toute la grande lignée technologique. Parce que avant, IBM vendait vraiment pour les entreprises. Mm-hmm. Mac, ça a été vraiment pour les premiers, pour les particuliers.
Oui, mais IBM avait aussi développé l'ordinateur personnel. Ouais. Je me rappelle des campagnes. Là,
il était vraiment plus dans
était vraiment
le côté
là, au départ, pendant des années, puis ce qu'ils ont construit. Là, c'est avec ça qu'ils sont devenus gros. Là. Puis toutes ces shops-là, là, Hewlett-Packard, puis ces compagnies-là, sont toutes grâce à la partie commerciale et industrielle et tout.
Tout un monde.
Hey, on est rendu loin. Hein?
Oui, ben c'est ça, c'est la technologie. On parlait de quoi? On parlait de journalisme.
mais ça a beaucoup évolué.
Mais moi, j'ai étudié en informatique. Puis, tu sais, j'ai délaissé cette branche-là parce que je trouve que c'est plus un atout que maintenant ma carrière. Puis je préfère l'administration. Puis je suis là-dedans. Mais, tu sais, dernièrement, je me suis reconstruit un ordinateur. Performant, tu sais, pour faire le montage de nos capsules aussi pour le jeu vidéo. Puis c'est encore vraiment plus facile que c'était. Là. Je me souviens, au cégep, c'était déjà pas compliqué, mais je pense que c'était le langage. Master, c'était encore plus facile. Tu peux aller sur un site web qui va faire exactement tout ce que tu as besoin de penser. Tu n'as même pas besoin de penser.
Le DIY, là. Do it yourself.
Ben, dans le fond, là, tu commandes les pièces, puis en plus, ils vont te dire bon, ben, telle pièce est moins chère sur Amazon ou sur tout le site. Fait que là, tu achètes tes trucs, tu les reçois chez vous, tu as juste une place pour la brancher. Tu la branches, ça marche.
Amazon, hein? Tu sais, l'époque de l'Amazon était juste une librairie.
Que Netflix, il louait des DVD.
Ouais. Dans une machine.
C'était une librairie, Amazon.
Ouais, c'était comme... Oui, c'est des livres.
Des livres en ligne.
Ils ont pris le marché du livre puis ils se sont bâtis avec ça. Maintenant, ils ont fait comment? Ben, on pourrait intégrer des affaires.
Ils ont poussé le livre numérique puis, tu sais, les readers, là, je sais pas comment ça s'appelle en français.
Les
là.
Liseuses.
Les liseuses, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Pas
les fameux Kinder.
Ouais, les Kinder, là. C'est, dans le fond, c'est comme un écran qui était moins agressif pour les yeux, pour la lecture. Là. Fait que les autres, ils ont vraiment accès, ben, premièrement, les livres papier, mais aussi, ils ont fait une transition pour les livres numériques, puis après, tous les cossins.
Après ça, toutes.
Pas mal sûr, t'as déjà entendu une de tes tantes. J'étais assez bien depuis que j'ai ma liseuse, là.
Non.
Non, t'as déjà entendu ça. Okay.
Ma mère, elle a essayé.
Liseuse, moi, ben.
Ouais, ça n'a pas marché.
Mais c'est pour ça, puis d'ailleurs, ben, quand on parle d'évolution numérique, mais tu sais, tout a évolué, les téléphones, les ordi, mais le livre, même si on essayait de le numériser, le livre imprimé reste toujours aussi fort.
Oui, mais moins métier. Fort qu'il a déjà été, mais oui, il reste toujours aussi
possiblement,
fort.
Possiblement, mais il y a encore énormément de ventes là, malgré tout. Bon, ceux qui vivent de ça vont peut-être rapporter certains bémols, là, mais c'est populaire.
Je pense que le changement qui a changé du livre, là, c'est le livre audio.
Ouais, ça
a été la grosse.
Encore là, c'est pas la même expérience. Tu sais, lire sur une cartable, écouter dans tes oreilles ou te plonger dans un livre.
Je préfère. Moi, mettons, ma voix dans ma tête me gosse. Fait que d'entendre quelqu'un d'autre qui me le lit, c'est mieux.
Ok, c'est pas juste toi, finalement.
Non, c'est pas. Non, c'est tout le monde, même moi. Non, mais je trouve ça intéressant, tu sais, mettons, un livre, je sais pas, mettons, tu sais, le Seigneur des Anneaux, tu l'écoutes, puis là, la personne, elle a comme déjà un accent comme anglais. Ouais. Je trouve que c'est plus intéressant à lire. C'est, ouais, pas, c'est
de plus
captivant.
En plus, ils jouent maintenant aussi. Là. Hein? Ils ben, font comme... du jeu, plus du jeu théâtral. Oh,
oui, mais
le meilleur exemple, c'est Sandman. Ouais. Sandman, le fameux graphic novel là, de l'auteur qui a fait, entre autres, je vais chercher, The Good Omen. Là. Good Omen en...
OK, oui. Quelque chose, mais... ouais, le Good Omen.
la série qui a d'ailleurs été aussi en mini-série télévisée sur Amazon Prime. Mais,
c'est l'ange puis le démon.
Oui, c'est ça. Neil Gaiman, je pense qu'il s'appelle. Il a écrit un graphic novel qui est une des plus grandes œuvres, entre guillemets, là, qu'on dit dans le graphic novel, là, qui s'appelle Sandman. Puis... il est fait comme ça, lui. Il est présenté avec des acteurs. C'est des acteurs qui font les différentes voix de personnages, puis c'est joué. Fait que t'achètes c'est sur Audible.
Ouais.
Fait que t'achètes le livre, mais ce que t'entends, c'est pas juste une narration, c'est vraiment les personnages qui
ça, c'est cool, ça. C'est
ça doit être extrêmement coûteux, là, pense-y. Là. C'est des acteurs connus qui l'ont fait sur
Audible. C'est sûr, mais tu sais, moi, j'avais écouté une version en français du Seigneur des Anneaux, puis c'était une personne, c'est une femme qui lisait le livre, mais chaque personnage avait comme sa voix. C'était vraiment intéressant, parce que c'est plus facile, là, t'as pas besoin de travailler pour comprendre c'est qui les personnages. Puis tu sais, même quand elle était Gollum, ben, elle avait comme une voix un peu plus comme le film. Là.
Ouais.
Et ça, c'était intéressant. Mais je pense que ça, c'est l'évolution du livre. Là.
Mais je pense que au journal, tu penses?
des journaux audio. Ben ça, oui, Radio-Canada avec les podcasts.
Ah!
Pas
beaucoup. C'est vrai. Dans le fond, ça se fait déjà.
Mm. Ben, oui. Mais le podcast, c'est un peu comme de la radio, mais décloisonné.
C'est de la radio libre.
Libre.
Tu sais, dans le contexte de Radio-Canada, pas de temps, là, tu sais, parce que ça ressemble beaucoup au format de Radio-Canada.
Ouais. Ouais, ouais. Puis c'est pour ça que j'ai les surnoms. Ben, c'est pour ça que les gens les appellent des balados. Tu sais, le terme balado-diffusion, il n'est pas vraiment utilisé ailleurs que.
Ben, c'est Radio-Canada. Au début des années 2000, Radio-Canada avait commencé les balados avec la gang de Bande à Part. S'il y a eu un gros creux, puis ça revient. Mais il était pas mal en avance. C'est juste que justement, leur format était tellement rigide que ça n'a pas pogné tant que ça.
Ben, c'est encore très radio.
Au lieu de faire un peu comme aux États-Unis, comme on fait là, du stock plus libre, mais c'était comme leurs émissions, puis quelques projets X.
Exact. Nouveau, là, ben, c'est beaucoup des émissions qui qu'on retrouve en balado.
D'abord, c'est écouter leurs émissions en archivage, dans le fond. C'est de l'archivage, finalement, ça.
Mais ce qu'ils ont maintenant, c'est qu'ils ont des beaux affaires sur audio. Là. Le documentaire de Plume.
Oh, Dieu!
Ouais. Documentaire sur Plume la Traverse ou Comment être drôle avec Julien Corriveau. Des belles petites perles. Là. 3.4 planètes, là, je ne sais plus trop.
Ouais, c'est
François Bienfait aussi.
Puis encore, là, de toute façon, tu peux aussi, c'est ça qui est le fun. Ils ne sont pas exclusifs à audio. Là. Tu peux pogner sur ta plateforme à toi d'écoute. Là.
Mm-hmm.
Parce que c'est ça le pays aussi. Là. C'est juste de rester sur ta plateforme. Le monde, ils veulent choisir leur plateforme aussi, c'est ça la force des podcasts.
Ça avait été une affaire que Netflix avait apportée qui était vraiment intéressante, puis ça, c'est dans le vidéo. Là. Mais tu sais, au début, là, d'avoir une plateforme de streaming que tu peux avoir l'ensemble de tous les films, de toutes les séries, puis que tu avais comme un abonnement, c'était vraiment intéressant. Mais après ça, ben tous les gros diffuseurs ou producteurs se sont dit hey, « mais là, si Netflix, ça marche, on va faire le Disney, après ça, blablabla. » Puis là, ça a fait qu'aujourd'hui, ben, tu as comme une dizaine d'abonnements à 15$ par mois. Puis
tu t'abonnes un mois, tu t'abonnes à l'autre mois.
Tu regardais la courbe là, de piraterie informatique ou de films, puis dans les moments forts de Netflix, quand il était ce joueur, là, c'était le plus gros creux du piratage. Puis là, aujourd'hui, on reparle encore de torrents, de downloader des films parce que les gens ne veulent pas dire hey, mais moi, je vais écouter un film qui est sur Amazon Prime, mais je ne veux pas payer Amazon Prime. Fait que comment je fais pour l'écouter? Ben, écoute-le, tel streaming ou écoute, download-le.
C'est la guerre de qui va donner le plus. Tu peux partager ton compte. Là, fait que quelle plateforme donne le plus de partage, dans le fond? Netflix, tu peux le partager à 5. Je pense que Disney, tu étais rendu à 8. Je ne sais pas trop. Là.
Disney, il faudrait que je check.
Disney, je pense que c'est 4.
4, OK.
Je pense que ça va monter à 6 avec Disney Plus. Disney Stars.
Ouais, peut-être.
Ah ouais, il y a un autre nouvel accostin, c'est ça.
Ça commence la semaine prochaine.
C'est quoi ça? C'est une série, ça? Ou ça?
Non,
c'est
parce que
16 ans et plus, dans le fond, de 13 ans et plus de Disney.
Parce qu'ils ont un catalogue assez incroyable, Disney, avec les acquisitions qu'ils ont faites, Fox et compagnie. Et il y a bien des choses qui sont moins enfants. Ils se faisaient reprocher que vous avez beaucoup juste des séries ou des films pour enfants.
Ouais.
Fait que là, ils sont allés chercher plein de choses et des. Il y a des séries puis il y a des films qui vont sur Star. Il y a du stock. Là. C'est assez impressionnant.
Ton même abonnement que Disney Plus.
Oui, exact. Ça fait partie de l'abonnement Disney Plus. Au lieu d'avoir une section Star Wars, Simpsons.
Marvel,
c'est ça. En plus, ils rajoutent la dernière reboot qui va être Star.
J'ai hâte de voir ça. Parce que là, c'est ça. En ce moment, tu sais, j'ai Amazon Prime, Netflix, Disney. Puis il y a quand même bien des films que je veux voir puis je peux pas voir parce qu'on sur aucune de ces trois-là.
Extra2.tv.
Extra2.tv, mais ça, lui, il est gratuit pour moi.
Ouais, ça, c'est TELUS. TELUS, ouais, c'est ça.
Plug.
Puis Helico, ben, quand t'es plus Vidéotron, t'as le club Helico.
Mais ça fait vraiment beaucoup de plateformes puis ça fait en sorte que... Ben, ça coûte cher, puis tu sais, ça revient un peu au problème du câble.
C'est ouais. Ça,
c'est la même affaire.
En fait, la grosse différence, Benoît, c'est vrai que ça coûte peut-être plus cher si jamais tu les prends toutes, là. Mm-hmm. Mais il reste que tu as un choix.
Tu choisis, tu n'as pas une.
Tandis que le câble, l'affaire, c'est que tu t'assieds devant la TV, puis tu tournes le flicker jusqu'à ce que tu trouves quelque chose que tu veux écouter. À moins que tu aies enregistré de quoi si ton enregistreur numérique.
Ce genre de gars-là, tu es un gars de TV, toi, ou tu es un gars d'écouter quand ça me tente?
Moi, je me mélange entre les deux. Mais j'écoute jamais rien en direct. Moi, tout est enregistré. Moi, j'ai un enregistreur numérique.
Tu peux vivre en direct de l'univers en direct et vivre l'émotion en vrai?
D'abord, je ne vis jamais en direct de l'univers. Et deuxièmement.
C'est pas ton style, il n'y a pas souvent de bend de métal.
Et deuxièmement, j'aime bien la fonction fast-forward.
Pour skipper les pubs. Là.
Skipper les pubs, skipper les affaires que je ne veux pas voir. Là. Moi, dans le temps, quand j'écoutais tout le monde en parle, je ne l'écoute plus vraiment, mais quand je l'écoutais, là, ben, ça durait 20 minutes. Ça ne durait pas 2 heures.
Ouais,
même,
ouais,
parce que je skippais les entrevues, je ne voulais pas voir.
C'était en Académie dimanche, là, 3h30 de show. 3h30 de niaisage. Là. Je veux dire, y avait, si tu veux voir, ben, ceux qui écoutent ça, ils veulent voir les performances des mises en danger puis le medley. Là, il y avait du stock là-dedans. Voyons, resti, couper. N'est-nous pas de même à chaque dimanche pendant 3h30, ça n'a pas de sens. Là.
Enregistreur numérique.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça, j'ai fait.
J'ai un bon truc pour toi, Matt, aussi. Là. Écoute-le pas.
Non, c'est important. C'est la culture. Puis c'est niaiseux, mais on est loin de Star Academy de 2003. Puis ce qui a déjà été fait, je pense qu'on se rapproche plus de la voix. Puis de la. Tu sais, genre, avec les réseaux sociaux, ça amène ça de bon. Là, c'est qu'on dirait que les gens plus émergents, plus underground, peuvent plus s'assumer les vraies personnalités. On a moins de préfab, mettons. Tu sais, on voit plus des vrais artistes. Après ça, c'est pas tout le monde qui a la même ligne artistique, là, mais je pense qu'on voit plus les créateurs, les vrais, tu sais, que dans le temps où la petite fille de Rimouski, on l'avait jamais vue avant, puis on sait pas ce qu'elle était, fait qu'elle peut bien être ce qu'elle veut à TV. Là. Ils peuvent plus vraiment préformater comme ils faisaient dans le temps, je pense.
Peut-être, ouais.
Ben, en même temps là, ça a tout le temps été un concours de popularité. Là,
c'est
pas la musique qui était prédominante là-dedans. Là,
en même temps, de le faire animer par Patrice Michaud, ça me rassure, je pense, parce que déjà, le gars, c'est un autre compositeur-interprète.
Tu penses que c'est lui qui décide?
Ils ont toujours été chercher quand même des noms. Là, ça a toujours, même à l'époque, José Lito Michaud, c'est quand même un gérant d'artiste.
C'est Grégory Charles et puis Lara Fabienne.
Ils ont toujours été bien entourés.
Ça reste qu'il y a des scripteurs, qu'il y a des producteurs.
C'est un show.
Que ce soit Patrick Michaud ou n'importe qui.
Patrice Michaud.
Ben,
lui, là.
Lui.
Mais que ce soit lui ou peu importe qui anime, là, lui, il va avoir des cartons, il va avoir des textes à apprendre. Là. Fait que,
c'est sûr, il a le droit de. Il n'est pas obligé de le faire. T'sais. S'il accepte, c'est parce que ça y tente. Là. Puis il a besoin d'argent parce que c'est la COVID.
c'est vraiment le fun comment ça marche bien là-dedans. 750 000? Ça se prend.
Tu sais, mettons, là, François Mascotte avec Spongy. Tu sais, mettons, là, je pense pas, c'est parce qu'il voulait nécessairement dire « Hey,
non, ça, c'est
le personnage me tente, ça a l'air carrément nice. »
C'est ma déco-dépression, ça.
Ah ouais, c'est
il était dans un down, il faisait 6 mois, il y a
ses talents, je pense.
Ça me semble entre 4-5-0.
C'est ça, me semble que je ramasserais du liquide, moi. Tu sais, c'est ça, il s'est pas dit ça.
Ouais, non, c'est ça.
Il a pas fait de recherche de personnage d'essuie tout, là, tu sais.
Mais, ouais. Mais non, mais je demeure.
Mais c'est il payait en liquide, par exemple. Ça, il était pas contre ça.
Tu mettons, pour faire pour contrebalancer, je vais pas écouter La Quotidienne la semaine. C'est pas vrai, je vais me taper ça, là, je m'en sac. Mais comme j'aime suivre la musique québécoise, ben, Star Academy, c'est comme un incontournable. T'as pas le choix de savoir qui sort de là parce que c'est des choses que le monde va écouter pareil.
Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Le problème, c'est qu'au Québec, étant donné qu'on a un petit milieu, ben, il y a bien des goûts qui sont laissés de côté parce qu'on vise la marque. Tout le temps.
On cherche tout le temps le même goût.
Tu vois,
c'est à peu près ça que je reprends.
L'hip-hop.
Mais là, mais 1-2-3 points qui revient à TV. Ça c'est
à
cool,
TV?
Ça. Uni. Ouais.
À Musique Plus.
1-2-3 points qui revient à Uni TV.
Okay.
Puis s'ils commencent leur première chose, c'est. Il est supposé avoir une entrevue avec Fat Mike.
Ok, je pensais qu'il faisait ça en live avec le point de vente.com. Ça va être à Uni, ok, c'est ça. Okay.
Mais ouais, non, il recommence, ça revient vraiment à TV. Ça, je trouve ça, je suis vraiment content. 1-2-3 Punk, c'était vraiment bon pour la scène au Québec.
Avec Régent Laplanche.
Yes, c'est Régent qui reprend, ouais.
Ah ben.
Il, ça a l'air qu'il va son skate face. D'en face.
Ah ouais, il va l'avoir.
Ouais, ça a l'air qu'il va revenir avec son skate d'en face.
En CGI. Ah, ça va être moins compliqué.
Il va ressembler à la pingue de Windows, là.
Clippy,
ouais.
Es-tu mort, Clippy? Il l'utilise plus, hein, je pense.
Clippy, le monde l'haïssait.
Ça fait un bout de
Clippy était gossant.
Ben oui, c'est sûr, ça marche pas. Tu peux le désactiver, I guess, mais peut-être pas si facilement que ça, c'est ça l'affaire.
Moi, je sais pas. Là. Il revenait tout le temps, il y avait une mise à jour pour
lui. Tu le désactivais, puis là, il revenait, il disait, t'es sûr que tu vas pas m'utiliser? Non.
Clippy, c'est la même affaire que Internet Explorer. Là. Tu veux tout le temps faire débarrasser, mais il revient tout le temps.
Ouais, c'est ça.
Edge, c'est ça.
Avec Edge, c'est la même affaire.
Tu cliques sur une affaire en pensant que ça va s'ouvrir dans ton Google Chrome comme d'habitude, mais non, t'as cette affaire-là qui vient ralentir ton ordinateur.
Non, mais Edge, c'est quand même pas si pire. Là. C'est moins énergivore que Google Chrome, mais en tout cas.
Ça reste.
Puis la descente de Mozilla Firefox, c'est à l'époque où Firefox était comme 2009.
Mais Firefox, encore, non, Firefox non, est encore dans le sommet.
Firefox, c'est le meilleur navigateur présentement.
Ah ouais.
Ouais.
Meilleur que
tu
Chrome.
Tu te battes, Matt?
Oui.
OK. Ouais, meilleur que Chrome en masse, man. Ouais. Chrome, là, c'est.
Parce que Chrome, ça a intégré tous tes outils Google, c'est quel fun.
Là. Oui, mais sauf que c'est énergivore, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Une page de navigateur, tu vas avoir 2 gigs de RAM de prix. Bravo. Mm-hmm. Juste pour du texte, non, non.
Bravo. Et que t'es méprisant. Et que t'es méprisant à ouais. Tous les gens de la Silicon Valley en ce moment qui nous regardent.
Mais non, mais Google, pays. Mettons, là, s'ils feraient attention, puis à place de juste développer du nouveau produit, puis ils répareraient ce qu'il y a, ce serait des super bonnes plateformes. Là.
Sur Drive, quand tu vas voir les applications de Google, as-tu juste descendu au bout de la liste?
Non, parce que j'ai d'autres choses à faire.
Là, il y a une affaire pour les teachers, Google Classroom. Il y a tout.
Non, ça ressemble beaucoup à Microsoft avant que Microsoft soit démantelé par. Les lois anti-trust aux États-Unis, c'est rendu énorme. Puis t'as la même chose au cinéma, là, avec au cinéma et dans l'entertainment. Là, je veux dire, c'est rendu tellement gros, Universal d'un bord, puis
Disney de l'autre bord, la grosse machine.
C'est rendu tellement gros que c'est eux qui décident de tout. Fait que, à un moment donné, ça risque de se faire démanteler, ça aussi, un jour.
Il y a tout le temps une problématique. Puis ça, je pense, ça marche avec toute entreprise, de tous les secteurs. C'est quand ton produit, mettons, avant, t'as ton équipe de produits qui décide de ta qualité ou de ton produit, puis à un moment donné, tu as le marketing qui vient comme contrebalancer, puis là, tu as ton marketing qui devient plus fort que ton produit, puis là, c'est là que ton produit devient pas bon. Puis tu sais, mettons Google, dans leurs bonnes années, ça allait bien, puis il y avait des bons produits, parce que c'était le produit qui était en premier. Là, après ça, ils ont décidé d'aller dans plein d'affaires.
Dans le temps que Google était juste un moteur de recherche, là.
Ben, ça, c'est leur vache à lait, là. C'est le même qui
encore
gagne.
Encore aujourd'hui.
À cause du placement publicitaire.
Oui, parce que ça te coûte de l'argent pour placer. C'est rare que le monde va à la 3e page, 4e page quand ils cherchent de quoi. Tu regardes la première page, tu le trouves pas, tu dis, je le trouverai jamais.
T'sais. Ou tu changes tes keywords. Ça.
Fait que tu veux que ta pub soit dans les premiers, là. Fait que
c'est puis Google en plus. Ramasse toutes les données que toi tu lui donnes en cherchant un manteau d'hiver ça. Fait que là, ça c'est extrêmement lucratif pour eux autres. Ça, c'est énorme. Là. C'est...
Ah ouais, Mathieu Proulx aime les chats.
C'est
ça, là.
C'est ça qui le gagne.
C'est encore le site le plus fréquenté au monde.
Probablement.
Ouais, ça doit être par défaut sur tous les navigateurs.
Pornhub puis Google.
Ah ouais. Ben oui, je pense que les sites de porn sont en haut, là, mais.
Amazon doit être assez consulté aussi. Surtout avec la pandémie, ils ont dû connaître un méchant boom. Déjà qui était très fort, là. Ça doit être extrêmement fort comme c'est là.
Là, c'est quoi le nouveau projet de Bezos là, qui est...
Démissionner, il semble.
Il va aller sur la Lune, non?
Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Il veut pas aller sur la Lune ou quelque chose
comme ça. C'est pas Bezos.
Je préfère Elon Musk.
Amazon?
Non.
Bezos?
Mais il semble qu'il a lâché. Il voulait démissionner puis qu'il voulait se concentrer sur un autre projet.
Dans le troisième... Un trimestre. J'ai juste quartier dans la tête, ça prend pas. Mais dans le troisième trimestre, il démissionne. Il quitte Amazon.
Ouais, c'est ça.
Ben, il quitte la présidence. D'après moi, il demeure...
Ben, il reste... J'imagine, actionnaire et tout ça, là, mais.
Il reste au conseil d'administration, mais il sera plus président.
Ouais, ouais c'est ça. Puis il veut se concentrer. Mais je pense qu'il va aller sur la Lune.
Je sais pas, je dis n'importe quoi.
Mais ça ressemble à ça.
Ils ont toutes ces lubies-là. Non, c'est milliardaire. C'est
Musk. Ouais, c'est Elon Musk, lui, il veut aller dans l'espace.
Elon Musk va aller sur Mars.
Oh, OK.
Tandis que lui, c'est une hostie de lubie de millionnaire, là. J'ai calé, j'ai tellement d'argent.
Qui va aller
de quoi?
Qui va aller
de la liberté?
C'est
quand Sky's the limit, à un moment donné, tu dis, ben, allons l'autre bord de Sky.
Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de Sky? Il y a Skywalker, hostie, il va aller marcher dans l'espace!
Du gros brag de millionnaire.
Milliardaire?
Milliardaire, ouais.
C'est tellement d'argent que tu peux juste jamais dépenser ça dans ta vie. Quand t'as tellement d'argent que tu peux juste pas le dépasser. Il y a
tu pourrais
problème.
Acheter tous les pays d'Afrique.
C'est parce que tu fais trop d'intérêt. Tu vas faire trop d'intérêt, c'est ça. Ouais. Un milliard, là, tu fais 1% d'intérêt, c'est beaucoup d'argent.
Ouais.
Je pense que ça serait plus facile d'acheter les États-Unis ou le Canada ou des pays comme ça que l'Afrique.
Peut-être.
Juste avec les dettes qu'on a accumulées.
Ouais, non. Ouais.
Plus facile d'acheter. L'Afrique, c'est quand même riche. Là. On dit tout le temps que c'est pauvre parce qu'on voit des pays pauvres et des gens pauvres, là, mais il y a des grosses richesses, là, du pétrole et de l'or et un peu de tout en Afrique.
C'est juste que les richesses, ils descendent jamais
dans beaucoup de gens.
Ouais, c'est ça. Ça. Descendent pas dans la population.
Ça profite juste à ceux qui sont au pouvoir. Hein.
Quelqu'un qui achète les États-Unis, est-ce que je triperais?
Puis moi, je changerais de nom.
Puis là, il appelle ça, ça, c'est la nouvelle franchise Amazon. Genre, ouais. Amazon du Nord, Amazon du Sud.
Achetez votre État.
On peut acheter des autoroutes. On peut acheter des États.
Moi, je ferais juste. Attends, t'achètes les États-Unis, là, ou le Canada, peu importe, là. Tu changes le nom du pays. Ouais. Vraiment, c'est crissement chiant. Puis un an après, tu changes les noms de rues de toutes les rues. Fait que tout le monde sont obligés de faire plein de changements d'adresse. Ça serait hot. Moi, ça serait mon projet de vie.
Les gars, ils achètent un pays juste pour foutre le chaos.
Juste foutre le chaos. Tu changes, tu sais, tous les territoires, là, tu changes tous les borders, là, tu sais.
Parce que Canada, tu joues dans la merde, là, arrête, là.
Pourquoi pas?
Ouais, je sais pas.
Si ça peut faire en sorte de mettre leur système correct.
Nos sociétés d'État, faut les protéger, faut les aider. On est des citoyens canadiens.
En les rendant privés. C'est ça que tu.
Ouais, ok, Mathieu, si j'ajoute les États-Unis, là, je vais nommer un État à ton nom.
Parfait.
L'État Mathieu Proulx.
Parfait. Je vais prendre.
Le Mathieu Proulx sous Souchette.
Le Nebraska, s'il vous plaît.
Non, sûrement le Texas que je vais te donner.
Ok. Ouais, je suis un peu à droite.
Prends un des deux Dakota à la place.
Ouais, c'est ça.
Tu prends la. Ah, Dakota du Nord, ça pue. Dakota du Sud.
Moi, je veux l'Iowa. Je pense qu'on sera rien.
L'Idaho. Je verrais l'Idaho, Ben.
L'Idaho, OK. Bon, l'Idaho. Ça sera
tout. Toi, Martin, tu prendrais quel, toi?
Si je prenais un État? Eh, sainte, bonne question.
Wisconsin, toi, hein?
Ça, oui, je suis très Wisconsin. Aussi, c'est ouais, ouais, peut-être le Wisconsin.
Wisconsin, ouais.
Ouais. Non, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État vraiment qui m'attire. Moi, je veux visiter la Louisiane.
OK, ouais, ouais, ouais,
l'Orléans,
ouais,
ça, c'est ouais. Vraiment quelque chose que ouais. Je veux voir un jour. Orleans, ouais, mais à part ça, là, non, pas vraiment.
Ouais. Es-tu un voyageur? Tu es allé
moi, je ne suis jamais sorti du Canada.
Ouais, moi non plus.
Je l'ai traversé, par exemple. Je suis allé au BC. Je ne l'ai pas traversé à pied ni en véhicule. Je l'ai traversé en avion. Là, mais
avec Terry Fox.
Je n'ai pas la chance. C'est parce que si tu dis je suis monté, j'ai fait un road trip jusqu'à Vancouver, c'est cool parce que tu as traversé toutes les provinces.
Ouais, ouais, ouais.
Pas moi. Je l'ai fait en avion. Là, mais non, je ne suis jamais sorti du Canada et... Je sais pas dans mes plans à court terme, là, mais ça va falloir que ça vienne parce que le
mais c'est quelque chose qui t'intéresse? Est... C'est juste que tu l'as pas fait parce que...
Ça n'a jamais donné.
Ça n'a jamais donné.
Ouais. Moi, je me suis toujours dit aussi que je veux découvrir le Canada aussi puis le Québec avant. T'sais. Genre, il y a trop de place, je peux aller proche que tant qu'à me payer de l'avion. Puis...
Mais tu sais, j'aimerais voir New York. J'aimerais voir la Nouvelle-Orléans. Mm-hmm. J'aimerais voir...
Mais tu sais...
L'Europe m'intéresse aussi, c'est sûr. Là.
Mais Mathieu, tu sais, souvent, là, mettons, tu vas avoir un tout-inclus, mettons, à Cancun là, pour ouais, 1 200$, puis tu vas aller aux États-Unis, mettons, puis ça va te coûter 4 000$.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Fait que maintenant, des fois, c'est juste... Ah, ben là, je peux aller dans au show et voir un autre peuple complètement...
Ouais, tu vois pas grand chose. Hein. Soit à Cancun dans un tout inclus, là, tu vas voir du monde qui va te dire bonjour, merci, là, mais tu vois pas une autre culture.
Mais non, mais je sais, mais mettons de vivre, d'avoir une plage, puis que l'eau est chaude, puis d'être sur le bord de la mer, c'est vraiment différent d'être en Abitibi.
Puis aux États-Unis, ouais, c'est une autre culture, mais pas vraiment intéressante.
Ah non, les Américains sont cool, man.
Ouais. Les États-Unis, là, c'est tellement n'importe quoi dans le sens que, dépendant de ce que t'es, qui tu rencontres. Moi, j'ai des amis américains qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît de Trump et tout ça. Ils sont à l'autre extrême. Ils feraient des très bons Québécois. Mais non, c'est ça. C'est très disparate, les États-Unis. Puis même dans les États, tu sais, en Californie, là, c'était dans tel endroit, là, ça va être plus à gauche. À tel endroit, c'est plus à droite. Le Texas, lui-même, tu parlais du Texas tantôt. Oui, il y a une culture très à droite.
Mais les villes.
Il y a une culture très à gauche. À Houston, c'est extrêmement démocrate. C'est très à gauche.
Les grands centres, en général, c'est sûr que c'est déjà plus éduqué, forcément. Ouais. Avec
quand tu regardes une map électorale, les États-Unis...
C'est plus complexe que juste l'éducation.
Mais...
C'est très culturel aussi.
Ouais, ouais.
Puis ils se font tellement marteler des choses depuis leur enfance aux États-Unis. Tu sais, les entendre parler de healthcare, là, de programmes de santé, c'est hallucinant parce qu'on dirait qu'ils comprennent vraiment pas c'est quoi.
Ils pensent que c'est juste très cher pour rien.
Ils pensent que c'est très cher, que t'as pas de service, puis que tu sais, tout ce qu'ils voient, les autres, là, c'est pourquoi je payerais pour ceux qui travaillent pas. Ils ont toute cette dynamique-là. Là,
c'est vraiment fou, hein, parce que j'ai lu une histoire d'un Américain, lui, il s'en allait au travail, il s'est fait frapper en auto, il a été dans le coma. Pendant un mois, il est sorti de l'hôpital avec 150 000 de dettes. Puis c'est même pas lui qui a causé l'accident. Puis il pouvait pas travailler. Ça n'a pas pu être couvert par son assurance personnelle. Fait que là, il a une grosse dette de 150 000 piastres, mais il peut pas travailler pour rembourser. Fait que là, il est pris probablement à vie dans cette genre pauvreté-là. C'est vraiment triste aux États-Unis pour les.
C'est vrai.
Le gros. Côté healthcare, puis il y aurait les moyens de le financer avec le budget militaire
amplement.
De fou, là.
Mais non, tu peux pas toucher au budget
il
militaire.
Pourrait le faire autrement, tu sais.
Ah oui, il pourrait
pas dire nulle part qu'il serait obligé de le faire comme au Québec ou au Canada ou en France, où tu sais, il y a des modèles différents partout, puis il pourrait en faire un. D'ailleurs, Obamacare, à quelque part, il y avait.
C'était une tentative.
C'était loin d'être parfait, puis c'était loin de ressembler à ce qu'on fait ici, mais il y avait quand même des choses très intéressantes pour la classe pas la classe moyenne, juste en dessous. Là, mm-hmm.
Les démunis.
Les ceux qui n'auront jamais accès, les 20 quelques millions qui n'auront jamais une assurance privée, là, soit au travail ou qui payent eux-mêmes, parce que hey, c'est ridicule. C'est 7 $ ça fait 20 ans que le salaire minimum est 7 $ et quelques aux États-Unis. 20 ans. En 20 ans, ça n'a pas bougé d'une scène.
Ça veut dire que c'était grandi. Là.
C'est hallucinant. Là. Une mère monoparentale, que tout ce qu'elle peut faire dans la vie, c'est travailler dans des restaurants. Là. Elle paye mm-hmm. 7 piastres d'heure, elle travaille 60 quelques heures semaine, puis elle a de la misère. Elle est obligée de marcher sur les faux titans, parce qu'ils sont des espèces de crédits.
Banque alimentaire.
Mais, puis, les gens qui sont contre les faux titans, puis contre les autres qui contre la hausse du ils vont dire à cette femme-là, ben va travailler, gagne ta vie. C'est ce qu'elle fait. Elle travaille 70 heures semaine ouais, pour un salaire de crève-faim, puis elle n'est pas capable de subvenir à ses besoins de base. Ça fait aucun sens.
Et non, puis là, ils voulaient augmenter à 15$ de l'heure pour l'entièreté des États-Unis. Puis là, ils disent, ouais, mais là, ça, tout va coûter plus cher, puis l'argent qu'on donne aux pauvres ne reviendra pas dans notre économie. Mais cet argent-là, ce dollar-là que tu donnes à une personne qui n'a pas d'argent, là,
elle va le dépenser
juste pour se loger. Puis tu sais, c'est drôle parce que je voyais des commentaires, tu sais, surtout pour l'accessibilité à acheter une maison aux États-Unis. Tu sais, il y a des gens qui se font refuser des prêts hypothécaires, mettons, de 950$ par mois, mais qui doivent payer leur appartement 1400-1600$ par mois. Là, il dit, mais je comprends pas ma banque, comment elle justifie. Moi, je paye déjà 1400$. Pourquoi qu'elle dit que je suis pas capable de payer 950$?
Non, c'est ridicule. Ils tiennent pas ça compte, non.
Mais tu sais, vraiment, l'écart entre les très riches et les très pauvres est encore vraiment plus grand. Puis c'est assez fou.
Ça s'est pas amélioré dans les 4 dernières années.
Non, mais Washington...
c'est drôle, ça.
Washington, l'État a déjà tout transféré son... Je pense que c'est déjà 15$ le salaire minimum.
Il y a un certain nombre d'États qui ont déjà adopté le 15$. Ouais. Puis il n'y a pas eu d'impact négatif. Au contraire, dans la plupart des endroits, ça s'est amélioré de beaucoup. Parce que les États-Unis, les Américains ont souvent une façon de penser, le fameux trickle-down économy qu'on entend des fois. Là, que si tu donnes de l'argent aux riches, ils vont dépenser eux autres, puis tout le monde va en profiter. Mais c'est jamais... On n'a jamais vu ça.
Si tu donnes de l'argent aux riches,
non, mais c'est vraiment ça qu'ils pensent. À toutes les fois qu'ils donnent des crédits d'impôt énormes à ceux qui font de l'argent, ils disent ça va redescendre par en bas, ça n'a pas le choix.
Oui.
Ça se rend jamais en bas. Ça reste en haut, c'est bien de valeur.
La crise économique, là, il y avait...
c'était mentalité de con.
Les plus riches se sont enrichis de 1,7 trilliards pendant la pandémie. Puis les plus pauvres se sont appauvris de 1,9 trilliards. En tout cas, tu sais, c'est semi pareil. Là. Juste dans la crise économique, là, ça montre là, que l'argent est passé d'une poche plus démunie à la poche pleine. Là, c'est assez fou.
Ça sent bien intense, son discussion. Là. Ouais. On rentre dans la table à Jean-Nel Boucher. Là.
On va se partir un groupe de hardcore parce que c'est ça qu'eux autres ils décrivent dans la chanson. Les inégalités sociales, les injustices sociales.
Sinon, qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là, Martin?
On se tient pas mal occupé.
Ouais.
Avec le travail, là, déjà, c'est...
En COVID, tu trouves-tu ton fun un peu pareil ou tu es toujours en train de parler?
C'est pas mal moins le fun.
Ouais, c'est ça.
C'est le sujet récurrent de l'heure. Oui, c'est ça. Puis comme nos effectifs ont été réduits et tout ça, on refait plus souvent la même affaire parce qu'il y a moins de monde pour dispatcher l'information.
Le COVID, c'est la nouvelle météo. avant, tu disais, hey, fais-tu beau voir chez vous? C'est une belle journée.
Pour ça,
hey.
Probabilité de cas d'aujourd'hui? Plus tard.
Tu mets ton masque.
C'est la météo puis la game du Canadien.
Ça monte ce choc.
Quoi, le score?
Il nous cache des cas. Il rajoute des cas. Ça veut rien. Y a-t-il
du monde qui vous a appelé pour dénoncer des complots puis des affaires?
Non, pas localement. Non, on en voit. Là, on en voit beaucoup sur les pages Facebook.
Oui, mais Média Abitibi, radio.
Mais ça n'existe plus, ça, les gens qui appellent ou qui envoient des... À ce temps, ça se fait tout sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Ils vident leur sac.
Tu sais, c'est des téléphones. On en reçoit très peu de gens qui...
Des lunettes.
C'est vraiment... Tout ça se passe tout sur Facebook. C'est ce qui est un mal pour un bien, peut-être, là, mais... ça demande plus de modération. C'est difficile parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas trop où est la ligne, là, quand tu... toujours embêtant, clair. Parce que quand tu es un média, ton but, c'est d'informer avec des faits. Puis là, quand tous les commentaires en dessous déforment les faits,
c'est ça,
c'est contre-productif un peu. Non, mais tu sais, puis là, quand t'enlèves quelque chose qui est vraiment n'importe quoi, puis là, les gens reviennent. Ah, vous nous censurez, vous empêchez de nous exprimer. Mais c'est parce... Moi, je suis là pour expliquer les faits, puis toi, tu viens avec des faits qui n'en sont pas. Mais ça, les faits, c'est tellement rendu galvaudé. Là, les gens, pour eux autres, des faits, c'est ça veut rien dire. J'ai souvent lu le commentaire. Je vais juste
faire des...
J'ai souvent lu le commentaire dans les dernières semaines, derniers mois, je devrais dire. Ouais, ils font du fact-checking, mais ils fact-check ce qu'ils veulent. Ils disent... Parce qu'à ce moment-là, tu comprends pas le sens du mot fact-checking. Tu vérifies des faits. Des faits, c'est vérifiable.
Ouais, c'est ça.
Ma main, est-ce qu'elle est jaune ou c'est les bleus ou c'est les blanches? Ça se vérifie assez facilement. Quelqu'un qui fait du fact-checking, un journaliste qui se spécialise là-dedans, ben, il contre-vérifie les faits. Bon, quand je lis des gens, ils disent ouais, ils fact-check selon ce qu'ils veulent nous dire. Ben, c'est pas ça du fact-checking. Tu peux aller vérifier toi-même. C'est ça l'avantage du fact-checking. C'est...
Mais les autres, ils font exactement ce qu'ils font, c'est ça. Ils font juste confirmer leurs doutes avec des pages louches puis des affaires qui sont.
Puis ils interprètent des statistiques.
C'est le biais de confirmation. Il va falloir vraiment ramener toute la philosophie à l'école, ça, parce qu'on voit des sophismes à gros comme le bras, puis tu te dis, il me semble, on a vu ça à
la base. Hein?
Je pense que c'est dans toute la. On peut dire que tous les médias sociaux, c'est quand même nouveau. Là, ça fait pas si longtemps que ça existe. Puis on dirait que sur les plateformes, tout le monde a perdu comme la conscience ça, de discussion, puis de savoir qu'est-ce qu'il peut se dire. T'sais, tu peux pas arriver dans la rue et dire, hey, toi, il m'a tué. Mais sur Internet, ben, tu pourrais dire ça. Ça arrive souvent. Ah, oui, je sais, mais là, de plus en plus, je pense que le système de justice, en tout cas au Canada, là, ils regardent à ça, puis ils font du checking pour voir, puis il y a même des plaintes, puis même à cette heure, le code criminel a changé par rapport à ça. Mmh. Mais tu sais, c'est ça, c'est relativement nouveau là. Fait que là, je pense que le monde sont pas conscients que c'est quand même leur identité numérique. Là. Mm-hmm. L'identité numérique, là, moi, c'est je suis qui en ligne.
Ce qui est fascinant, c'est quand des gens ont des comptes anonymes puis que là, ils attaquent tout le monde, tu te dis OK, bon, on sait pas c'est qui.
Ouais.
Mais c'est plus ça maintenant. Maintenant, c'est complètement dédouané. Là. Les gens attaquent, puis leur photo de profil, c'est eux autres avec le petit enfant dans leurs bras. Puis la photo de la mère à côté. T'sais, là, tu te dis, c'est même pas anonyme. C'est ce gars-là là, qui vient me traiter toutes sortes de noms sur Facebook. Là. Ben, je vois sur sa page Facebook, puis je vois pour qui il travaille, je vois c'est qui sa femme, je vois c'est qui ses enfants.
Je vois c'est quoi les films.
C'est même pas anonyme, ça paraît courageux, mais je suis pas sûr qu'ils sont conscients que.
C'est ça l'ironie, là. Mais...
Ouais, tu sais, moi, si le propriétaire de tel commerce m'attaque, on me dit, ben, pas sûr que moi, aller là. Moi, il fait 3-4 fois qu'il me ramasse sur Facebook sans fondement, puis je sais que c'est lui, là. J'ai sa photo. Je
fais juste débarquer chez eux, salut, t'as un problème, c'est qui, toi? T'es un gars qui gosse.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment une drôle d'époque, là. C'est.
Ouais,
t'aurais prédit ça il y a 5 ans, puis on aurait tout ri de toi, là, tu sais. Mais...
Puis c'est pas si loin que ça. T'sais.
Non,
ça fait longtemps que c'était
ça. Ça a dérapé vite, là, c'est
mais
ça.
Comme Ben, il dit, je pense qu'on n'a juste pas encore. On n'a pas encore atteint notre âge de maturité versus ces choses-là. Là, on est dans la.
Mais là, il y a le contexte particulier de la pandémie qui fait que les gens vivent un stress hors de l'ordinaire, vivent des situations hors de l'ordinaire. Peut-être que
ça
trigger, je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais peut-être que ça.
Ça déclenche.
Peut-être que ça déclenche des commerces, des fonds, des comportements là, erratiques, entre guillemets. Là.
C'est drôle qu'il y ait autant de conspirationnistes qui sont apparus pendant la pandémie. En même temps, c'est sûr que quelqu'un qui a de quoi. T'as pas de contrôle, mais tu essaies de trouver une raison pourquoi ça arrive. Là.
Ouais, puis là, c'est parce que c'est le gros sujet, fait qu'on les voit plus là-dessus, mais tu sais, avant.
Non, mais le nombre de ma tante Ginette, c'est fixé dans mon sens.
Il y a eu des très bons articles qui ont expliqué un peu pourquoi est-ce que ça existe, les théories de la conspiration, puis pourquoi les gens adhèrent aussi facilement à ça.
Quelques documentaires qui commencent à.
Ça commence à circuler.
Hey, merci beaucoup, Martin Guédon.
Ça fait plaisir. Il n'y a pas eu de claquement de doigts.
Ouais, on a une nouvelle tradition. OK. Merci. On peut te suivre sur Twitter. Je sais que tu es bien actif sur Twitter, Instagram un peu.
Actif sur Twitter, oui.
Quelques photos des fois.
Facebook, Instagram.
Et sur le site de l'Éclat, l'Écho.
Oui, ça s'appelle encore l'Éclat. Mais c'est
l'Éclat, exactement. C'est sur le citoyen, c'est ça.
Mais notre page Facebook s'appelle encore l'Éclat. Pour une question de changement de nom
le
compliqué.
Temps que le
je sais
COVID
pas.
Finisse,
mais non, mais on a comme plein de citoyens. Je sais pas, peut-être c'est compliqué les citoyens de Rouen. Je sais pas, c'est pas dans mes sphères à moi. Moi, je suis. J'ai pas à gérer ça. Fait que,
les flatteurs dans les commentaires. Merci beaucoup, Marc-René Guédon. Puis ben, on va aller te suivre. On va continuer à lire tes articles de COVID et de tout. Et d'autres choses.
Et j'espère de d'autres choses. Ouais.
J'espère. Bientôt. Il va sûrement avoir. Il commence à en avoir d'autres des sujets. Là. Sinon, ben, on reviendra au podcast. On va parler d'autres choses. Quoique, au final, on a parlé de ça aussi. Mais anyway. Mais bon.
Non, on en parle tout le temps.
On pas le choix. C'est omniprésent. Merci beaucoup, Martin Guédon. Merci, Pierre-Marc. Merci, Benoît.
Salut, Mathieu.
Salut, là.
Merci, messieurs.